Alors, je crois qu'il est inutile que je vous présente le cardinal Daniels. Vous le connaissez tous bien, c'est pourquoi vous êtes là. Je voudrais simplement dire une petite chose très simple. C'est que je suis heureux de vous remercier encore une fois d'avoir été ordonné par vos mains en 85, et pas seulement moi, mais... Pas seulement moi, mais Alain Mathéus qui est là, Philippe Warny qui est ici aussi, Bernard Joassard, et il y a encore un autre professeur de l'IET, Jean-Pierre Sonnet. Voilà, au moins 5 professeurs de l'IET qui ont été ordonnés par vous en 85. Je vous remercie beaucoup.
Merci Père, je savais que j'avais beaucoup de mérite, mais pas autant. Voilà, mes chers amis, ce soir, on va nous entretenir de ce qu'on appelle la piété populaire ou la religion populaire. De temps en temps, on dit, et c'est un peu vrai, les églises se vident, il y a même des églises qui se ferment. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui va très bien. C'est que la dévotion populaire, Banneux, Bourin, Lourdes, Rome, Halles, Montaigu, ça marche très bien. D'année en année, il y a plus de pèlerins qui vont, par exemple, dans ces sanctuaires mariaux. Et ça continue. Alors, comment est-ce que ça se fait, que ça se porte bien, tandis que la liturgie normale ou la liturgie classique se porte moins bien? Ben, voyons un petit peu. Certains attribuent la baisse de la fréquentation des églises au deuxième concile du Vatican. On dit on nous a changé la religion. Il y a des choses qui ont disparu, ce n'est pas tout à fait faux d'ailleurs, hein, un certain sens du sacré, et ça fait place à un foisonnement de mots et surtout une pénurie de silence. Il y a beaucoup plus de paroles, mais il y a beaucoup moins de mystères. Alors, il y a pourtant donc un domaine qui ne connaît pas de baisse de régime, mais au contraire des succès toujours croissants. Ce sont les lieux de pèlerinage et tout ce qui touche à la piété populaire. Les fidèles continuent à se rendre en masse au grand sanctuaire mariaux. Sont-ils peut-être un peu là du bavardage de certaines de nos célébrations modernes? Ou bien est-ce qu'ils ont plus de confiance dans leurs pieds et leurs jambes que dans leur tête quand ils marchent? Et ils sentent quelque part que quand le corps est impliqué, que la religion devient beaucoup plus forte, elle prend l'homme tout entier. Est-ce que le Concile se s'est trompé? Je ne crois pas. Car le Concile a tout de même purifié certaines formes et certaines excroissances et simplismes de la dévotion populaire. Il ne faut pas oublier non plus que dans la dévotion populaire, il y avait un certain formalisme. On avait une énorme confiance dans les rites, c'était presque automatique. Une certaine superficialité et peut-être aussi un folklore un peu trop exubérant, et se confiner de temps en temps à la superstition. Il fallait donc que le Concile rétablisse la bonne relation, la balance, entre ce qu'on peut appeler la grande liturgie de l'Église et la petite liturgie de la piété populaire. Il était par exemple tout de même fort nécessaire de souligner l'importance de la parole de Dieu en revalorisant la table de la parole au début de la messe, qui n'est pas une sorte de lecture, un peu de lecture, mais qui est une présence du Christ, qui dans sa parole est aussi présent, comme il est présent dans l'Eucharistie, même si c'est sur un mode différent, mais la présence est réelle dans les deux cas. Et puis, il fallait aussi accompagner les rituels de l'Église, un service de la parole qui introduisait au rite. Avant le baptême, il fallait lire passage ou deux de la Sainte Écriture. Devant l'onction des malades, la même chose. Le mariage aussi, la même chose. Et surtout, ce qui était nécessaire après le Concile, c'est de replacer le Christ au centre même de notre foi. Marie et les saints et les saintes sont évidemment là, ils restent là, mais c'est la garde d'honneur. Ce n'est pas directement le roi lui-même. Alors, cet état de choses devait donc tout de même un peu changé. Mais c'est vrai que les sentiments, l'émotion, le ressenti a aussi le droit de citer dans la liturgie. Peut-être que on a un peu exagéré dans un sens d'une cérébralisation de la liturgie. Mais il faut savoir aussi que lors de la dévotion populaire, un peu en dehors et côté de la grande liturgie de l'Église, il y avait tout de même très peu de louanges, très peu d'actions de grâce et d'adoration, mais surtout un excès de demandes et de supplications, et en plus, la liturgie devenait une sorte de, d'action individuelle et individualiste même. Pendant que le prêtre célébrait là l'Eucharistie, on faisait sa propre petite liturgie avec le chapelet. Il y avait donc tout de même des choses à changer. Surtout aussi, le « je » triomphait, le « nous » et l'assemblée liturgique étaient peu soulignés, alors qu'il faut tout de même savoir que le mot même de la liturgia, liturgie veut dire action du peuple et non pas action d'un seul individu qui assiste à la liturgie. Il y avait donc à remettre un peu la balance en équilibre. Mais on peut aussi exagérer. Tout le monde sait, enfin les bons jardiniers savent, que quand on coupe sur un rosier plus de 2 boutons, il n'y aura pas de rose en été. Il ne faut donc pas faire la coupe sombre. Et dit avant tout, on va tout changer et couper fortement dans cette piété populaire. C'est vrai que la liturgie doit éviter une certaine cérébralité, et surtout ce qui manquait, et ce qui peut manquer à une réforme un peu intellectuelle de la liturgie, c'est surtout que les images sont absentes. C'est plein de concepts, c'est plein de paroles et plein de mots, c'est bien de raisonnements, c'est plein d'argumentations. Mais est-ce qu'il y a des images? Est-ce qu'il y a des symboles? Dans certains cas, une liturgie qui est devenue vraiment presque intellectualiste et cérébrale, une liturgie pareille déménage du cœur à la tête. Or, elle doit être et dans la tête et surtout dans le cœur. Et aussi, le corps n'est plus impliqué dans une liturgie trop cérébrale. C'est d'ailleurs, mais c'est plus visible en Flandre qu'en Wallonie encore, une différence communautaire, c'est qu'en Flandre, on reste assis, sauf à la consécration. Et encore. Tandis que je rencontre sans moi à Bruxelles et en Wallonie. Mais ça veut donc dire que le corps n'est plus impliqué du tout, comme si la liturgie se passait entièrement là, au-dessus, et pas en dessous. Alors, on peut évidemment aussi exagérer et insister tellement sur la communauté et l'assemblée qu'un chrétien individuel n'a presque plus d'espace pour respirer. Il n'est presque plus lui-même. Et le silence qui est absent, parce qu'on remplit à peu près tout par un certain bavardage, soyons honnêtes, eh bien ce silence, il ne faut pas oublier que la plus grande louange qu'on puisse faire à Dieu, c'est se taire. Tibi silentium laus, dit cet adage classique, la véritable louange, Seigneur, que tu aimes, c'est notre silence. Il ne faut pas non plus refouler le sacré et le mystère derrière des explications et des commentaires de l'enseignement et de l'argumentation. Et surtout, il ne faut pas oublier que la liturgie ne commence pas hier soir, qu'elle a une tradition. Et que les gens, de simples gens du peuple, savent ça et sentent ça. Il faut continuer à faire ce qu'on a toujours fait, ce qui ne veut pas dire identique. Mais il faut savoir et sentir la continuité. Alors passons après ce constat, ce n'est pas la faute du concile, mais c'est la faute de temps en temps d'une application un peu forcée du concile, que le concile n'a jamais venu. Mais la dévotion populaire et la religion populaire est tenace. Même si on a beaucoup, on peut avoir des théologiens et des liturgistes très forts qui insistent, le peuple continue. Il survit à tout. À toutes les réformes, il en subit les conséquences, mais lentement, il digère une réforme. Mais il ne va jamais sauter à pieds joints sur ce qui est la continuité. Il va rester attaché à ce qui s'est toujours fait. Pourquoi ? Parce que le christianisme n'est ni une philosophie, ni un système de pensée. C'est une religion, et surtout, c'est une religion incarnée. Elle ne consiste pas seulement à penser bien, mais surtout à vivre. Et vivre est beaucoup plus que penser. Et cette religion populaire, qui continue à vivre, elle mourra un quart d'heure après la mort de toute l'humanité. Elle continuera. Alors, cette dévotion, cette religion populaire est tout, tout proche de la vie. Elle imprègne la vie même, le cœur, le sentiment, les mains, les pieds. Et elle est tout à fait. Elle n'est pas à l'aise quand elle sent que la liturgie émigre de son biotope et devient presque entièrement conceptuelle et didactique, enseignée. Alors, si cette liturgie devient trop cérébrale, le peuple vote des pieds, il ne vient plus. Mais il continue à aller là où cette liturgie, où ce culte et cette religion est devenue attachée au corps, aux sentiments, aux émotions, à l'histoire, à la tradition, aux formes, aux images, aux symboles. Et surtout, la dévotion populaire ne supporte pas qu'on remplace des textes qu'ils ont toujours entendus par des textes qu'on a fabriqués soi-même et qui sont surtout centrés sur nous-mêmes, qui ont une valeur littéraire, qui sont presque là parce que c'est beau à entendre que c'est vrai. Ça, le peuple... Et il dit alors, et je crois qu'il n'a pas tout à fait tort, c'est élitaire. Il faut se souvenir aussi, ou en tout cas se rendre compte, qu'il y a un autre phénomène qui est en train de se manifester. Il n'y a pas seulement la continuité de la religion populaire, mais il y a ce que j'appellerais un nouveau paganisme. Qu'est-ce que c'est que ce paganisme ? Eh bien, c'est une religion qui renoue entièrement avec ancêtres, histoire, cosmos, la nature. On revient à d'anciennes formes de religion naturelle, pas du tout chrétienne et pas du tout de Dieu. C'est une religion reliée au soleil, à la lune et aux saisons. On revient aux Celtes et aux Germains. On s'élève à l'extérieur avec des druides, à chaque solstice d'été, au milieu de pierres et de menhirs. Tout le monde connaît Stonehenge. Ça veut donc dire qu'au solstice d'été, tout le monde se rassemble pour une sorte de fête païenne. Ici, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de réflexion. C'est le retour à des vieux archétypes qui sont la mère terre, le roi soleil, la princesse lune, et on déterre les anciens rituels avec une nouvelle caste sacerdotale. C'est ce qu'on appelle le nouveau paganisme. C'est, si vous voulez, le retour de ceux qui aussi se distinguent dans la liturgie un peu cérébrale et didactique pour revenir à quelque chose de plus senti, mais complètement païen. D'ailleurs, de temps en temps, j'ai l'impression que certains mariages, il vaudrait mieux les célébrer dans le verger, sous un pommier, qu'à l'église. C'est, de temps en temps, je me demande, enfin, il faut que je me retienne un petit peu, mais je me demande quand je les vois certains comme ça, et c'est dans la meilleure, avec la meilleure volonté du monde, ce ne sont pas des gens méchants, mais je dis, mais ceci, c'est le printemps de Botticelli. Mais pas le mariage dans l'Église et du Christ. Et ce n'est pas parce que ce sont des mauvais gens, mais c'est presque inventé ou réinventé à l'intérieur du christianisme une religion naturelle et un peu païenne. Alors évidemment, on peut se demander, est-ce que tout ça est une facture non payée de nous ? Est-ce que nous ne sommes pas un peu à la base de tout ça ? Je ne juge pas. Je constate simplement qu'il y a encore toujours une religion populaire qui continue et qui continuera. Parce qu'il y a une culture populaire qui ne disparaît pas. Malgré la scolarisation, malgré le fait que beaucoup de gens ont fait des études universitaires, ça ne change pas. Je connais des intellectuels, des ingénieurs, dans leur laboratoire, qui, question de foi et de religion, sont encore des petits-enfants de première communion. Ça existe. La culture populaire, sur laquelle est fondée la religion populaire et la célébration et la dévotion populaire, eh bien, cette culture populaire a des traits bien propres. On peut la reconnaître tout de suite. Elle se laisse toujours beaucoup plus mener par le sentiment que par les idées. Elle est très spontanée. Elle ne raisonne pas. Elle ne vit pas d'arguments, mais d'intuitions subites. Elle accorde beaucoup plus de prix aux sentiments qu'aux idées. Et tandis que la passion, l'émotion, a priorité sur tout ce qui est planning et projet. Elle est aussi la culture populaire, de ceux et de celles qui ne peuvent pas s'appuyer ni sur des richesses, ni sur une opulence financière, ni sur un rang social et du prestige, ni sur de grandes relations, ni sur une culture, même s'ils ont une culture, ni sur le pouvoir et ni sur le confort. Ces personnes manquent de tout ce qui pourrait leur attirer de la considération sociale. Mais ils sont là, en masse. Ils sont très proches des sources de la vie et des impulsions profondes de l'homme, vitales. Elles veulent vivre avant tout. Réagissent de manière primaire, mais avec authenticité et avec beaucoup de vérité. Ils ont un grand sens pratique, allergiques aux mots et aux théories. Elles ne réfléchissent pas, elles agissent. Elles ont des émotions et des sentiments très élémentaires. Elles aiment ou elles haïssent. Il n'y a pas d'entre-deux. Eh bien, ces personnes du peuple perçoivent intuitivement, malgré leur soi-disant superficialité, mais perçoivent intuitivement la profondeur de beaucoup de choses. Mais elles n'agissent pas en fonction de grands principes, mais à partir de grands sentiments. Chez eux, la religion n'est pas un objet de longue délibération, ni d'un grand choix individuel et personnel. Ils décident tout de suite, ils choisissent, sans avoir raisonné. Ils sont très liés aussi, cette culture populaire, avec les grands événements de l'existence, les péripéties de l'existence. Par exemple, tout ce qui appartient à la vie, la naissance, le mariage, la souffrance, la mort. Une sensibilité de l'âme très liée à la nature, avec des lieux sacrés, avec des sources et des grottes, et les temps forts de l'année, Noël, Pâques, Pentecôte, l'Assomption et la Toussaint, et la fête des défunts. Ça, c'est propre à la culture et donc aussi à la religion populaire. Vous n'avez jamais remarqué que vous n'aurez jamais un sanctuaire marial ou un lieu de pèlerinage en pleine plaine. Ça a toujours quelque part eu à une source, ou une forêt, ou un rocher, ou une constellation, comme ça. C'est jamais. Il doit toujours y avoir quelque chose de cosmique, quelque chose qui appartient à la terre, au feu, à l'eau. Enfin, les quatre puissances cosmiques. Ça n'est pas de la superstition, mais ça veut dire que cette piété populaire et cette religion populaire est ancrée dans la terre. Ce qui est évidemment très important pour la religion populaire, ce sont les fêtes liturgiques. Et surtout, Là, quand on regarde alors les fêtes liturgiques qui ont du succès, c'est tout à fait différent en Occident et en Orient. En Occident, la grande fête populaire, c'est la fête de Noël. C'est la crèche avec Marie, Joseph, l'âne et le bœuf et les bergers. C'est les fêtes liturgiques où il y a quelque chose, où il y a une représentation concrète. Mais pour l'Orient, c'est pas Noël. La grande fête populaire pour l'Orient, où les fidèles sont vraiment pris, c'est la nuit de Pâques. Et Pâques est évidemment la plus grande fête, c'est évident. Mais les Occidentaux, nous donc, nous sommes liés à du concret, à de la couleur, à de la forme et à une certaine représentation. Or, un petit enfant dans une crèche avec sa maman et son papa, on peut se l'imaginer. Et ça attire. C'est coloré. Tandis que pour Pâques, vous ne trouvez pas d'image. Ce n'est pas ce Jésus avec son drapeau comme ça qui sort du tombeau qui fait l'affaire. Vous ne trouvez ça dans aucune maison, même si ça existe, mais sans aucune maison. Mais vous trouvez partout ou en beaucoup d'endroits quelque chose comme la crèche de Noël. Ça veut donc dire que Noël chez nous est préféré et par la dévotion populaire parce que c'est une fête sensorielle. Pâques est une fête de foi. Alors, une fête, elle évoque l'intimité. C'est au cœur de la nuit. C'est une chaude atmosphère. C'est un événement familial. On peut se représenter l'événement Noël en images, comme au théâtre, mais Pâques, impossible de mettre ça en scène. Le ressuscité sortant du tombeau en portant en main le fanion de la résurrection frappe pas l'imagination. C'est une fête aussi Noël du corps, hein. Dans sa réalité concrète, engendrer, nourrir, soigner, comme ça. Pâques célèbre un corps qui est déjà au-delà des sens et qui échappe à l'emprise. Regardez l'image en Orient et en Occident de la Vierge Marie. En Occident, c'est la Madone. C'est-à-dire, c'est une fille du Moyen-Âge peint par Van Eyck, une fille de Bruges, quelque part, bien habillée, avec un enfant. C'est très concret, on peut toucher presque. En Orient, c'est une icône à Noël. Et une icône, ou bien de Marie, avec l'enfant sur son bras. Aucun enfant ne peut tenir sur le bras de sa mère tel que l'enfant sur les icônes, il va tomber. Donc, anatomiquement, c'est rien du tout. Tandis que Van Eyck et Memling, c'est vraiment net, tout juste. Ça veut donc dire qu'en Orient, Marie, c'est une vérité, une réalité théologique. Tandis qu'en Occident, Marie, dans la crèche, c'est une maman. C'est tout à fait différent. L'image de Marie est l'image de Marie avec l'enfant dans la crèche, ou un autre moment, mais très corporel, la Pietà. C'est la Vierge Marie avec le corps de Jésus mort. Pour la résurrection, nous n'avons pas d'image, sauf, mais c'est beaucoup moins fréquent, mais c'est la rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine dans le jardin. Là, vous avez ça aussi, mais là aussi, c'est corporel. No lime tangere. C'est une autre caractéristique de la religion populaire et de la dévotion populaire, c'est sa relation à la famille. C'est profondément ancré dans la famille. La religion populaire vit là où vit la famille. Naissance, accession à l'âge adulte, mariage, souffrance et mort. Et c'est pourquoi, même si de temps en temps les gens du peuple ont leur différend avec l'Église, ça c'est aussi, ces gens sentent tout de même que quelque part l'Église est une mère. Et que quelque part, même si elle a de temps en temps des choses qui ne sont pas très agréables, la morale comme ça, on est encore au mieux chez elle. Et il y a un sens de l'Église qui n'est pas théologique du tout, Mais un sens comme ça, quelque part, elle est maternelle. Et finalement, même si elle peut être sévère, et elle est de temps en temps sévère, vous savez que lorsque vous avez fait quelque chose de mal, elle dit toujours, comme une bonne maman, tu peux venir, viens. Ça, c'est profondément ancré dans la religion populaire. C'est une famille, l'Église. Elle procure des certitudes, une certaine sécurité, une compréhension, beaucoup de pardon, beaucoup d'encouragement et de consolation. L'Église est une famille, un atelier de l'amour. Et c'est profondément ancré dans les gens du peuple, comme ça. Alors, ce qui est très important pour la religion populaire sont les fêtes, et en particulier les fêtes familiales. Les fêtes interrompent le train-train des jours, des semaines et des mois, sont des haltes, des moments de recueillement, des oasis pour le cœur. On en a besoin. Ne nous enlevez pas nos fêtes. Parce qu'il existe beaucoup de sortes de temps. Il y a d'abord le temps de la montre. Ça, c'est un temps physique qui, au fond, court et toujours trop vite. Ça va trop vite, on n'a pas de temps. Puis, il y a un temps du cœur et des émotions où sont reçues les blessures, mais aussi les grandes joies. Mais il y a surtout le temps de la fête. Et le temps de la fête, on voudrait arrêter ce temps, le geler pour le garder à... Ça devrait durer toujours, la fête. Très important. Et on dit toujours, pour le temps de la fête, c'est dommage que c'est déjà passé. C'est une sorte de rupture dans la ligne du temps, où nous sommes élevés au-dessus du temps, dans un maintenant qui est presque en dehors du temps et au-dessus du temps. Ça, c'est le temps de la fête. Ce qui est remarquable... qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a toujours au fait un rite. Il n'y a pas de fête sans rite. Une action qu'on répète indéfiniment, identiquement, ne change rien au rite. Car un moment festif doit être fixe, encadré et immobilisé. Alors on dit souvent... pour les communions, par exemple, la confirmation, les gens vont ne veulent pas la célébration à l'église, mais c'est la fête et les cadeaux et le repas. Ça n'est pas vrai. La célébration à l'église, moi je compare ça toujours avec lorsque dans l'office, on a l'antienne du psaume et on a le psaume. Le psaume est beaucoup plus long que l'antienne. Seulement, c'est l'antienne qui détermine le ton dans lequel est cherché le psaume et qui donne le titre et la raison du psaume. Ça. Eh bien, la célébration le matin à l'église, c'est l'antienne. C'est plus court, mais ça donne le ton de toute la journée. Et le psaume, c'est la fête et ça dure beaucoup plus longtemps. L'antienne doit résonner dans l'église. Mais le psaume, c'est la fête en famille. Et il n'y aurait pas de fête familiale s'il n'y avait pas à la tête la célébration de l'Église, dans l'Église le matin. Ce qui est important pour le peuple et pour la religion populaire, c'est que la fête est essentielle. C'est détente, c'est insouciance, c'est joie, c'est oublier, c'est ne jamais penser au matin, au lendemain. Et il y a la cérémonie religieuse le matin à l'église où tout est réglé, cadré, bien défini. Alors après, par contre, tout déborde. Et tout se déchaîne jusque même à la transgression. Parce que la fête fait de grande. On mange toujours trop. Et on boit encore plus. Mais c'est essentiel pour la fête. Et c'est une source vive d'émotions, même si c'est vrai que c'est à l'église qu'a été créée l'ambiance. Le ton dans l'église est donné par l'architecture du bâtiment, par les fleurs, par les vêtements liturgiques, par l'ensemble des rituels et surtout par la musique. Et c'est alors que aussi, pendant cette célébration dans l'église, que émergent les souvenirs du passé. C'est là que convergent toutes les générations. Tous les ingrédients de la religiosité populaire sont présents. La tradition, mes parents aussi ont fait leur communion solennelle, le sentiment, un certain éthos, une certaine morale et une espérance. Et surtout dans la fête, et c'est ça que les gens veulent dire quand on dit « il faut de même qu'il ait sa fête, le petit ». Ça veut donc dire que la fête détermine une fois, comme ça ne se fait presque jamais, « je suis quelqu'un ». Aujourd'hui, on me regarde. C'est typiquement la culture populaire. Et en même temps, cette appréhension que quelque part, puisque dans cette fête, il y a un certain mystère, il y a quelque chose qui se passe ici, mais je ne peux pas le dire. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Comme cette dame qui, à Bruxelles, est chez un vicaire pour le baptême de son enfant. Et le vicaire, il peut le faire évidemment, disait, mais madame, pourquoi est-ce que vous faites baptiser votre enfant? Dites-le-moi. Ah, dit-elle, je ne sais pas. Alors madame, est-ce qu'il faut faire baptiser cet enfant? Mais monsieur le vicaire, c'est pas moi qui dois le savoir pourquoi, c'est votre affaire. Là, vous voyez comment... Ils sentent qu'il y a quelque chose, et c'est pourquoi il n'est jamais, je crois, c'est jamais le cas, qu'il faut exiger d'abord une sorte d'explication, d'argumentation théologique pour pouvoir conférer un sacrement à quelqu'un. Il faut la foi, ça c'est autre chose. Mais la foi ne veut pas dire que j'ai compris et je peux tout expliquer. D'ailleurs, le vicaire, quand il expliquera ça, ce qu'il fait théologiquement, qu'est-ce qu'il en sait ? Qu'est-ce que nous savons que c'est que le baptême? Plus ou moins, oui. Mais ce qui se passe dans l'âme de quelqu'un, c'est Dieu. Alors la fête, est-ce que vous avez remarqué aussi que lors des fêtes dans les familles, comme ça, ils utilisent un langage qu'ils n'utilisent jamais en d'autres circonstances, avec des mots qui n'ont pas... Pensez au petit speech que fait le père des mariés ou de la mariée le jour du mariage. Ils disent tous, mais où est-ce qu'il a été chercher ça? Ben, il a copié simplement un speech qu'il a quelque part trouvé chez un collègue qui a fait un speech, mais avec des mots qu'il ne comprend pas lui-même. Le style de la petite, de la lettre d'un enfant au nouvel an pour ses parents, ce n'est pas du tout le langage de l'enfant. Il y a un langage spécial pour la fête qu'on n'utilise jamais à d'autres occasions. Ce qui est vrai aussi, c'est que souvent, il n'y a pas de parole à la fête. Il n'y a pas un langage articulé. Il n'y a que des larmes. Et les larmes sont le langage du peuple. Aussi bien de la consolation ou que de la souffrance. On pleure dans les deux cas. Et donc, c'est les larmes qui parlent très souvent comme ça. Il ne faut pas oublier non plus qu'à la célébration liturgique à l'Église, que ce qui est important, plus important que les paroles, c'est le rite, le rituel. Pour le mariage, par exemple, c'est le « oui » solennel, c'est les anneaux, c'est la robe blanche, c'est la marche nuptiale de Mendelssohn, que tout le monde joue, évidemment. Le sérieux de l'événement vient plutôt de ce qu'il y a à voir et à toucher qu'à entendre. Très important ce rite, comme ça. C'est vrai que de plus en plus, les funérailles et les mariages sont tellement personnalisés qu'on se demande est-ce que c'est le rituel de l'Église ou c'est... Quand j'entends dans des funérailles, le prêtre, avec la meilleure volonté du monde, parce que la famille l'a demandé de temps en temps, ne fait que faire une sorte de curriculum vitae de tout ce que le brave monsieur dans son cercueil a fait au cours de sa vie. Moi, je me dis très souvent, le jour où moi je suis dans ce cercueil. Et on commence à raconter tout ce que j'ai fait dans ma vie, même tout le bien. Je vais toquer sur le cercueil en disant, monsieur le curé, ce sera probablement un évêque, enfin. Monsieur le curé, mais tout ça, je le sais déjà. Mais ce que je voudrais entendre, c'est non pas d'où je viens, vers quoi je marche. Parle-moi un peu du futur, parce que ça, je ne sais pas. Il y a là quelques... C'est trop personnalisé. Il y a une grande consolation d'être enterré avec le rituel de l'Église qu'on utilisait déjà au Moyen-Âge. On s'insère dans ce long temps de génération en génération et on se sent homme et membre de l'Église avec beaucoup de gens qui m'ont précédé et beaucoup qui vont suivre. Il y a une grande consolation à rentrer dans les rangs. Simplement. Les fêtes sont importantes. Hein. Les gens n'aiment pas quand on remplace un rituel classique. Il ne faut pas qu'il soit sclérosé. Mais un rituel classique par une invention propre. Hein. Ils disent, mais ils ne vont tout de même pas nous enlever nos fêtes. Hein. Les gens se sentent copropriétaires de la liturgie. Donc, supporte pas que le prêtre arrange comme il veut. Ils sont copropriétaires. La religion populaire aussi a un grand sens de la tradition, de la continuité. Monsieur, nous avons toujours fait comme ça dans la famille. L'homme populaire sait admirablement s'adapter à des formes nouvelles, mais lorsqu'il s'agit des réalités vitales les plus profondes, elle ne peut s'accommoder de changements radicaux. Ils nous ont enlevé la vraie foi, disent-ils. Car toute famille, l'Église est à leurs yeux une grande famille, à ces traditions qu'on respecte. Une grande continuité, malgré les changements. Pensez aux grands-parents qui s'entendent toujours bien avec les petits-enfants dans les familles. Ça, c'est simplement l'illustration de la continuité d'une tradition, une grande tradition familiale. Et ce sont surtout les mamans et les grands-mamans qui transmettent cette tradition en Russie. Et ce sont les matrouchkas, nanouchkas plutôt, qui ont dévoilé les matrouchkas, c'est autre chose. Mais les nanouchkas qui ont les grands-mères, qui ont sauvé le peuple et la religion du peuple. Robert Panet, qui est un théologien français de la pastorale, qui a écrit sur la religion populaire, le meilleur livre que je connais, mais il date déjà 30 ans, dit qu'on peut écrire notre époque comme une période d'un matriarcat modéré. C'est vrai que ce sont les mamans et les grands-mamans qui sauvegardent, qui protègent et qui assurent la continuité. Et dans cette tradition prend aussi sa place la paroisse et l'église paroissiale. Une référence dans le paysage, un monument qui symbolise la continuité. Qui proteste le premier quand on va fermer une église? Ce n'est pas les croyants, c'est les incroyants qui disent « Ah non, le clocher c'est notre village ». Et c'est un peu vrai. Et les lieux de pèlerinage, hein, et les temps, par exemple, le mois de mai, c'est Banneux. Ils vont chaque année à Banneux. Ou c'est Montaigu. La religion populaire est aussi pleine de sentiments. Elle a une relation privilégiée avec le cœur et les sentiments, bien plus qu'avec la tête. Et sentiment ne veut pas dire sentimentalité. Sentiment est un puissant moteur de vie et une source de vie. Le sentiment pousse souvent des gens simples à une générosité illimitée, parfois même jusqu'à en devenir risqué et déraisonnable. On dépasse par générosité ses possibilités. Par exemple, lorsqu'on s'empresse d'accueillir chez soi un enfant devenu tout à coup orphelin, sans examiner si on pourra l'assumer financièrement et émotionnellement, ça n'est pas rare. temps en temps, heureusement, que le juge s'en occupe et dit, ça ne va pas comme ça. Mais les gens, dans leur émotion et leur générosité, feraient des choses qu'ils sont incapables de continuer à faire. La religion populaire ne retient que ce qui est gravé dans l'imagination et l'affectivité, pas dans la tête. Et c'est pourquoi la seule prédication dont on retient quelque chose, c'est la prédication en images. C'est les images qu'on utilise, les comparaisons. Jésus est maître là-dedans. Quand il a expliqué quelque chose de dur et difficile, parabole. Et les gens ne retiennent que les images, pas les idées. C'est un langage fleuri. Quelque chose qui évoque et qui suggère. Ça, ils retiennent. Hein? Parce qu'il ne sait pas comprendre, il faut sentir une homélie. Il ne faut pas nécessairement la comprendre. Hein? Ma sœur m'a dit un jour, je l'ai mariée, il y a des années, et j'ai demandé une fois à ma sœur, mais qu'est-ce que tu as retenu du mariage? Avec le secret espoir que ce serait l'homélie. Eh bien, elle m'a dit simplement, je n'ai rien retenu, sauf qu'il faisait très chaud. C'est ça, la dévotion et la religion populaire, c'est ce qu'on sent sur la peau. C'est pas ce qu'on sent et ce qu'on a compris dans sa tête. Hein. La religion populaire a une sorte de sens comme les petits enfants prélogiques. Mais le prélogique est tout proche et tout près du supralogique. Les enfants sont ceux qui comprennent le mieux les mystères. Pourquoi ? Parce que ils sont prélogiques et c'est tout proche de la supralogique, métalogique, c'est ça. C'est pourquoi que Jésus a dit, je te loue Père que tu as révélé ça aux petits et tu as caché ça aux sages et aux intelligents. C'est ça qui joue. Hein? Un savoir au-delà de la raison, qui n'est né ni de la pensée et ni du raisonnement, mais du sentir et du vivre. Ce qu'on retient, par exemple, ce sont aussi les lieux. Ce sont Lourdes, Rome, Assise, par exemple. Assise est très clair pour ça. On ne peut passer à Assise où on retient pour toujours. La petite église de San Damiano, personne n'oublie ça. Et il y a quelque chose dans l'air à Assise, jusqu'au langage des Italiens qui y habitent, qui reste dans notre tête, comme ça. Ou une ambiance, ou un événement pittoresque, ou par exemple une musique typique comme celle du refrain de Thésée. C'est ça qui reste. Une architecture reconnaissable, qu'elle soit belle ou non, une statue de Marie. La culture des catholiques populaires n'est pas littéraire, était empathique et affective. Et les gens sont devant une image, une statue de la Vierge Marie qui n'est pas beau, qui n'est pas belle du tout. À Montaigu, on voit qu'un grand manteau avec une toute petite tête noire au-dessus. Et à Kortenbos, au Limbourg, j'entrais dans l'église, c'est un sanctuaire marial beaucoup moins connu. Il y a un grand manteau et il y a une petite Marie au-dessus du manteau. Donc le cou du manteau et encore tout le corps de Marie qui sort. C'est presque un miracle. Hein? La culture populaire ou le catholique populaire a aussi sa façon de considérer la morale et la morale de l'Église. De temps en temps, il dit, l'Église demande des choses qui sont impossibles, enfin on s'y fait. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de morale et d'éthos. Hein? Et il dit, c'est pas si désagréable de vivre en église, même si je ne suis pas toujours d'accord avec le magistère. Parce qu'au moins, chez elle, c'est bénéfique, c'est fiable. Oui, c'est une morale stricte et exigeante, et au moins on peut y trouver de sécurité, une compréhension, et surtout, on peut y trouver le pardon. et la liberté. Il y a toujours dans l'Église le rameau de l'espérance qui reste vert toujours. Ça n'est jamais bouché. Ouais. Elle demande, c'est une mère qui demande beaucoup, mais c'est une mère. Et donc, il y a une morale, ça ne veut pas dire qu'ils vont, ils font ce qu'ils veulent, et de temps en temps, un sens très profond de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ils le sentent comme ça. Dans un contexte affectif comme ça. On entend de temps en temps ce que cette foi populaire et la foi chrétienne tout court est de l'opium pour le peuple. Ce n'est pas vrai du tout. C'est une bulle d'oxygène pour le peuple. C'est tout à fait différent que de l'opium. Il faut, pour pouvoir vivre, les pauvres gens comme ça, être tout de même un peu d'oxygène pour vivre. Et c'est l'espérance chrétienne qui fait ça. Une grande familiarité aussi avec la mort et avec l'attention au défunt. C'est typique pour la religion populaire. Et ça caractérise d'ailleurs la piété populaire. On leur rend visite et on s'entretient avec eux. Et le fait que le culte des morts diminue à notre époque, aussi à cause de la crémation, on ne les trouve plus les morts, sont-ils, est en même temps une déchristianisation, mais aussi une déshumanisation. Car on coupe la ligne des générations, on devient apatride. Et ne plus pouvoir désigner où se trouve mon mari mort, ou mon papa, ou ma maman, est une déshumanisation. Je sais bien que dans des villes de 20 millions, que c'est impossible de faire des cimetières pour 20 millions, comme ça. Et donc la crémation se fait. Mais il y a une immense différence entre mettre fin à l'existence de ce cadavre en le brûlant qu'en le déposant avec respect et avec amour dans la terre mère d'où il est sorti un jour. C'est tout à fait différent. Mais c'est vrai que ça deviendra de plus en plus un privilège. Parce que ça sera de plus en plus difficile de le faire. Alors, où sommes-nous? La religion populaire, elle aime le contact direct avec Dieu et le Christ et la Vierge Marie et les saints. Elle n'a pas besoin du prêtre directement, par la médiation du prêtre. Ce n'est pas nécessaire, on n'est pas contre, mais on n'est pas pour non plus. Et surtout, on va vers Dieu et vers le Christ et la Vierge Marie pour recevoir. On mendie. Et c'est vrai que Jésus pourrait dire aux catholiques populaires, vous ne venez que parce que vous avez mangé des pains et pour voir des miracles. Et les catholiques populaires répondent, bien sûr, Jésus, que nous venons pour ça. Il n'y a pas de difficulté avec ça. On demande, et n'a aucune difficulté, la religion populaire est directement à Dieu. Et elle ne fait pas d'antichambre. La religion populaire met d'emblée tout sur la table. Mes angoisses, mes soucis, ma douleur et mon chagrin. Elle entend la critique de Jésus, tu ne viens que pour avoir quelque chose, mais elle dit oui, bien sûr, hein, c'est pour ça. Et ce qui est pire, c'est qu'en général, le catholique populaire va devant Dieu, devant le Christ, en disant, voici mon problème. Et ajoute, voici comment il faut résoudre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le médecin, on dit, voici ce que j'ai. Le diagnostic. Et voici ce qu'ils vont me donner comme médicament. Un médecin, évidemment, dirait, si tu es médecin aussi, eh bien, madame, je m'excuse, mais j'ai plus rien à faire. Nous faisons tout le temps ça avec Dieu. Mais c'est un médecin avec beaucoup de patience. Ils sont comme ça. Tout est relationnel, mais on sait que même si on fait des choses dont on sait, il y a du plus parfait que ça, hein. dire au Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite, c'est beaucoup plus parfait. Mais ce n'est pas mon affaire. Et finalement, ça repose sur une conviction profonde. Je saurais mieux dire que ça, plus religieux, plus chrétien, mais Dieu m'aime, tel que je suis. Et c'est très beau ça. C'est très beau ça. Alors il y a dans la dévotion populaire surtout la Vierge Marie et les saints, mais surtout la Vierge Marie. Elle est centrale parce qu'elle est tout à la fois. Tous les ingrédients de la culture et de la dévotion populaire sont dans Marie. Elle est en même temps la mère de Dieu, est placée très haut, mais tout proche. Sa statue se dresse là, dans la niche, immobile et très lointaine, et pourtant, elle me regarde, et elle est très proche, si proche que je pense qu'elle est là même pour moi tout seul. C'est ainsi qu'elle m'accompagne sur le chemin de la vie. Vous savez, cette fameuse réflexion de quelqu'un, une institutrice de maternelle, qui mettait une icône de la Vierge Marie avec l'enfant, devant les enfants, et disait, allez, regardez maintenant une fois toutes, la Vierge Marie avec le petit Jésus. Regardez-la, en silence. Et il y a une fille qui dit à l'institutrice, et c'est authentique comme ça, mais madame, je ne regarde pas. Ah, tu ne regardes pas Marie? Non, elle me regarde. Ça, c'est quelqu'un qui peut dire ça. Et moi, et maître en théologie. C'est Marie. Il y a évidemment certaines excroissances, c'est vrai. Vatican II a, par exemple, changé le titre de deux grandes fêtes de Marie. Par exemple, la Chandeleur, le 2 février, la présentation, c'est devenu la présentation de Jésus au Temple. Et l'Annonciation, le 25 mars, n'est plus l'Annonciation de Marie, mais l'Annonciation du Seigneur Jésus. On a christologisé ces fêtes parce que ce sont des fêtes christologiques. Parce que je crois que c'est vrai qu'il faut, il faut aussi recentrer sur le Christ. Mais quand on a trouvé Marie, on trouve toujours le Christ en même temps. Toutes les vérités relatives au Christ sont ancrées dans la dévotion mariale d'une façon très étroite et très humaine. Elle est la mère du Christ, elle est nouvelle Ève, elle est la sœur de tous les humains, elle est fille du Père, etc. Tout y est. Et impossible d'écrire Marie sans référence au Christ. Karl Rahner a une expression, une phrase merveilleuse que j'ai toujours admirée. Il dit à un certain moment ceci, le Christ coupé de Marie devient une abstraction et se réduit à une idée. Il n'a plus de chair, le Christ, il n'a plus de corps. C'est une idée, comme ça. Parce que c'est vrai, dit-il, que les abstractions et les idées n'ont pas de mère. Pour trouver ça, ce n'est pas encore ce que l'enfant avait trouvé, mais c'est tout proche. Hein. Les lieux de pèlerinage mariaux sont des points d'ancrage dans la religion populaire, ça vous savez, hein, c'est parce que il y a tout. Hein. Il y a des lieux, il y a des temps sacrés, il y a des fêtes, il y a des rites, il y a un langage, il y a des gestes, il y a des chants, il y a de la musique, il y a des prières, il y a une ambiance familiale, surtout dans les lieux de pèlerinage, il y a un anonymat qui rassure, une solidarité doublée d'une grande liberté. On peut voir, on peut sentir, on peut toucher. Les gens sont tout à fait différents dans un sanctuaire marial et à Lourdes, par exemple, qu'ici. À l'époque, j'allais souvent le lundi après-midi à Montaigu pour prier. Je n'y vais plus. Parce que j'arrivais là, même en plein hiver, quand il faisait froid, en plein après-midi, le lundi après-midi, je m'asseyais dans l'église, je commençais à prier. Pas cinq minutes plus tard, il y a quelqu'un à côté de moi qui vient et qui raconte la moitié de sa vie. Et c'était chaque fois comme ça. Il n'y a pas de gêne vis-à-vis de l'évêque ou du prêtre dans un sanctuaire marial. À Lourdes aussi. À Lourdes, il faut fuir de temps en temps pour échapper à... Ce ne sont pas tous des saints et des saintes. De temps en temps, ils viennent vous dire des choses un peu... Mais enfin, Jésus était suivi aussi par quelques lunatiques, dit-on. Eh bien, c'est vrai que comme évêque à Lourdes aussi. Mais c'est beau. Il y a une gêne qui tombe. C'est comme si dans le sanctuaire marial, dans la basilique, les distinctions entre supérieur et inférieur tombent. On est chez soi, dans la famille. Sommet de la religiosité populaire sont les pèlerinages. Et je crois que les pèlerinages sont aussi anciens que l'humanité. L'homme a toujours vécu des montées, hein, pensez au psaume de montée vers Jérusalem. Et le pèlerinage est plus qu'un pèlerinage, c'est une montée symbolique spirituelle. Hein. Lorsqu'on va en pèlerinage, pensons maintenant à un pèlerinage à Lourdes, qu'est-ce qu'on remarque? On regarde les choses tout à fait différemment. Le paysage, les autres, soi-même, sa propre histoire. On n'a plus de soucis, une grande disponibilité qui naît, un triomphe de la sobriété, on n'a plus le confort comme chez soi, mais ça ne donne rien, ça n'est pas rien, ça n'est rien. Un pèlerinage tisse aussi des liens profonds entre les personnes. Regardez les gens qui ont été ensemble à Lourdes en train. Ils restent souvent des amis pour toute leur vie. Quelque part, le pèlerinage est une sorte de petite retraite spirituelle avec le pied. Et très fort, comme ça. Hein. Il y a aussi les processions, qui sont un pèlerinage en miniature avec une grande différence. C'est que dans les processions, on veut être vu parce qu'on se montre. Dans un pèlerinage, on n'est pas vu. C'est pourquoi il est beaucoup plus difficile de recruter des gens pour aller dans la procession que pour aller à Lourdes. Parce qu'on ne peut rester dans l'anonymat. Et c'est une confession, une profession de foi, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avec cette religiosité populaire si forte et je crois une richesse aussi? Il faut la purifier, ça c'est certain. Parce que de temps en temps, il y a des excroissances. Un peu de magie, un très fort intérêt pour des résultats perceptibles, formalisme, une confiance aveugle dans les rites. J'ai allumé une bougie, c'est résolu. Trop peu d'appel donc à une conversion morale, un utilitarisme et tout de même aussi une sous-estimation de l'intelligence et du savoir, de temps en temps aussi une confiance en Dieu qui n'est pas très éclairée. Et ça peut devenir un chantage sur Dieu. Donc il y a à purifier certaines choses. Et cette religiosité populaire, il ne faut pas la tuer. Il faut la soutenir parce qu'elle est précieuse. Mais elle doit se soumettre à l'épreuve du feu. Mais si on supprimait cette religion populaire, il se pourrait que ce crépuscule de la religion populaire serait tout de suite le matin des magiciens. Les successeurs sont là. Supprimez la dévotion populaire et vous aurez toutes sortes de... les gens qui lisent dans les mains, qui... lisez la dernière page dans son nom de Vlan. Vous avez les adresses de tous ceux qui prévoient votre avenir, tout ça. Le jour où on tuerait et on assassinerait la dévotion populaire chrétienne, les autres dévotions populaires sont déjà là, et ce sont les magiciens. Et qui, eux, se font payer. La différence. Les théologiens, après le deuxième concile du Vatican, se sont montrés de temps en temps, et ils ont raison, critiques vis-à-vis de certaines choses. C'est des traces de paganisme. C'est surtout pas tellement chez nous, mais en Amérique latine. Et le grand, celui qui ne pouvait pas supporter la religion populaire, était le grand théologien protestant Barthes, Karl Barthes. Pour lui, la religion, le christianisme n'avait rien à faire avec la religion. Ce n'était pas une religion. Parce que les religions sont toujours beaucoup trop terre à terre et intéressées et touchées. Et ça, ce n'est pas Dieu. En Amérique latine, c'est surtout Medellín et Puebla, les deux grandes conférences qui ont donc purifié cette dévotion populaire, cette religion populaire. Mais le pape Paul VI, en 76 déjà, a fait un grand plaidoyer en faveur de la piété populaire. Et aux yeux du pape, c'était un précieux cadeau fait par Dieu aux hommes et le sol nourricier riche pour une religiosité authentique. Je lis son texte. La piété populaire traduit une soif de Dieu que seuls les simples et les pauvres peuvent connaître. Elle rend capable de générosité et de sacrifice jusqu'à l'héroïsme lorsqu'il s'agit de manifester la foi. Elle comporte un sens aigu des attributs de Dieu, la paternité, la providence, la présence amoureuse et constante. Elle engendre des attitudes rarement observées ailleurs et au même degré, la patience, le sens de la croix dans la vie quotidienne, le détachement, l'ouverture aux autres, la dévotion. En raison de tous ces aspects, nous l'appelons volontiers piété populaire, c'est-à-dire religion du peuple, plutôt que religiosité. Bien orientée, cette religiosité populaire peut être de plus en plus pour nos masses populaires une vraie rencontre avec Dieu en Jésus-Christ. Il faut donc discerner, purifier, trouver un équilibre entre la grande liturgie officielle et la petite liturgie. Et puis, ne jamais oublier, et je termine avec ça, ne jamais oublier, ça c'est fort important, que Dieu aime les pauvres d'un amour préférentiel. Ne l'oublions jamais. C'est pourquoi, lorsque j'entends de temps en temps des critiques sur la dévotion populaire, avec les excès qu'il peut y avoir, je dis, je ne suis pas sûr que Dieu serait d'accord avec toi. Parce que Il aime les pauvres d'un amour préférentiel. Alors on peut évidemment le dire avec les lèvres en disant, oui, c'est vrai, les pauvres, mais c'est réel. Et d'ailleurs, si nous sommes croyants ici, tous et toutes, c'est à cause de la dévotion populaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut en rester là, quand on fait de la théologie. Mais si la théologie est complètement... pas seulement distincte, mais séparée ou opposée à tout ce que ces pauvres gens, comme ça, « Ah, Seigneur, disait le pharisien, je, etc. » Et le pauvre publicain était derrière. C'était lui qui était justifié. Et ne soyons pas étonnés encore qu'au jugement devant Dieu, si nous apparaissons devant lui, qu'il dise « La dame ici derrière, elle est beaucoup plus sainte que toi. » Voilà, merci.